Chapitre 7 Rapprochement. Il y avait plus de 2 mois que durait la liaison de Louise avec Maxime, et elle n'était plus un mystère pour les amis du jeune homme. La curiosité, vivement excitée, avait voulu une satisfaction aussi complète que possible, et c'était sans doute à quelque espionnage officieux que l'on devait au cercle la connaissance de la retraite de Louise. D'ailleurs, Maxime, à mesure qu'il avait trouvé moins d'attrait dans ses amours, avait pris moins de soin pour les cacher, et ne s'avançait pas qu'on lui en parlât. Une seule chose manquait au bonheur de ses amis. Il n'avait jamais vu Louise, qui ne sortait que rarement et toujours le soir. C'était la première fois qu'un pareil scandale se produisait et qu'un des leurs gardait pendant 2 mois une maîtresse aussi absolument invisible. On ne faisait pas mieux en Turquie. Aussi la conversation venait-elle souvent sur ce sujet, et Maxime était-il en butte à de nombreuses questions toujours plus pressantes. En quittant le pavillon, avons-nous dit, il se rendit au cercle de la rue aux Ours. « Diable, Maxime, lui dit Renard, tu te déranges? Tu viens au cercle avant dîner? » « Il a congé, dit un autre. » Tous les regards se tournèrent vers Maxime, et ce fut un feu roulant de quolibets de répartis qu'il supporta en souriant et avec un certain sentiment de supériorité. Il voyait bien qu'au fond de tout cela, il y avait un peu d'envie de la part de ses bons amis, réduits, pour la plupart, aux bonnes fortunes banales, connues et cotées sur place, qui défraient la jeunesse rouennaise. C'est en effet une histoire bien triste, bien décolorée, que nous aurions à raconter si nous voulions retracer la carrière amoureuse de certains de ces jeunes gens qui sont l'orgueil de leur famille. Les péchés de jeunesse. Nous n'avons point l'austérité du moraliste et le courage nous manque pour les condamner. Mais nous les voudrions entourer d'une auréole d'idéal et de poésie. Nous voudrions que ces premières aspirations du cœur qui s'ouvrent à la vie et à l'amour laissassent du moins après eux un souvenir rafraîchissant dans lequel viendrait se réfugier de temps en temps l'homme fatigué et le vieillard retiré de la lutte du monde. Regards échangés, mains furtivement pressées, premiers aveux murmurés d'une voix tremblante, rendez-vous promis, fièvre de l'attente, promenade au fond des bois, au bord des ruisseaux, marguerites effeuillées, une robe blanche qui court dans l'herbe, un chapeau de paille qui se détache, amour, jeunesse, nature, quel poème, quel souvenir! Ou bien la scène change. C'est un boudoir coquet, parfumé. C'est l'élégance dans le luxe. Ce sont de fins et joyeux soupers où l'esprit pétille dans les têtes comme le champagne dans les verres. C'est la gaieté, le rire, la chanson. C'est cette charmante ivresse causée par le parfum des fleurs, l'éclat des lumières, le cliquetis des mots et l'enchantement des yeux. Et de tout cela, que nous reste-t-il? Vers quelles idoles montent les premiers transports de nos cœurs de 20 ans? Dans quel terrain jetons-nous ces semences précieuses que nous ne retrouverons plus? Nous avons des amours en commandite, nous avons des adorations pour des idoles qui ont déjà plusieurs générations de fervents. Nous avons des soupers en cabinet particulier où l'esprit est frelaté comme le vin et d'où l'on sort la langue épaisse, la tête lourde, regrettant son lit. Nous avons des promenades honteuses dans un fiacre sordide avec un cabaret pour but. Nous n'avons pas de jeunesse et si nous faisons des folies, nous n'avons pas l'excuse de la passion. On comprendra facilement que Maxime, qui avait jusqu'alors roulé dans l'ornière commune, devint un objet de jalousie pour ses amis, du moment où il paraissait en sortir. Les hommes sont ainsi faits qu'ils se consolent volontiers d'être privé de biens dont personne ne jouit. Mais quand un des plus heureux s'en empare, tout se révolte et se croit en droit d'y prétendre. « Quand donc nous montreras-tu ta belle inconnue ?» dit un jeune homme qui préparait un bit de terre avec toute la précaution qu'exige une telle boisson. « Tu nous feras croire qu'elle est laide, » dit un autre qui laissait tomber avec un soin méthodique les premières gouttes d'eau dans un verre d'absinthe. « C'est peut-être une négresse !» exclama un troisième. Des éclats de rire recueillirent cette charmante plaisanterie. « Oh, vous seriez donc bien heureux de la voir !» reprit Maxime. « Mais est-ce que nous la connaissons ?»« Avouez, messieurs, dit Duplan, que vous êtes intrigués !»« Comme une pièce de scribe !» « Eh bien, reprit Maxime, je ne dis pas qu'un de ces jours. « Oh, bravo, bravo » s'écria-t-on de toutes parts. Renard garda seul le silence et haussa les épaules. Maxime remarqua ce mouvement. « Mais qu'as-tu encore à dire, toi, déjeuner ?» demanda-t-il. « Bon, très peu de choses. Si ce n'est que tu ne vaux pas mieux que tes honorables amis. » Des exclamations bruyantes interrompirent Renard. Bon, m'interroge, reprit-il, je réponds. Je réponds à Maxime qu'il est un maladroit de céder à votre curiosité de ne pas garder son bonheur pour lui. L'amour est ami du mystère, fredonna un des assistants. « Je dis que, s'il n'est pas maladroit, il est plus malheureux encore, parce que, en consentant à l'exhibition ridicule que vous réclamez, il me prouve qu'il n'aime plus sa maîtresse, qui est très digne d'être aimée. »« Comment le sais-tu, la connais-tu ?»« Non, je ne la connais pas, je suis probablement le seul qui n'ait point cherché à la connaître, mais je dis qu'une femme qui se conduit comme elle... qui vit dans la retraite sagement, qui ne veut point faire parler d'elle ni de ses toilettes, je dis que cette femme est digne d'être aimée, parce qu'elle aime et que, comme dit Desgenais, le vrai le premier, on n'est pas aimé tous les jours. » Ces paroles furent saluées par des applaudissements ironiques. Toutefois, elles firent réfléchir Maxime. Elles étaient en effet la peinture exacte de sa situation. Il reconnaissait que Louise était parfaitement digne d'être aimée, mais il reconnaissait aussi qu'il ne l'aimait plus. Des conversations de ce genre se renouvelaient toutes les fois que Maxime se trouvait avec ses amis. Il devait succomber à leurs instances, à leurs railleries. D'ailleurs, Louise était jolie, elle ne pouvait que lui faire honneur et lui procurer, à défaut d'autres, des satisfactions d'amour-propre. Il se passa toutefois encore quelques jours avant qu'il mît à exécution le dessein qu'il avait formé de présenter Louise à ses amis. Il attendait une bonne occasion. Un jour, enfin, c'était dans les premiers jours de septembre, il arriva chez Louise de bonne heure et annonça qu'il resterait à dîner. Il y avait longtemps que cela lui était arrivé. Il était d'ailleurs d'une humeur charmante. « Louise, lui dit-il, te serait-il agréable de venir ce soir au Théâtre des Arts ?»« Tu sais, répondit-elle, que je n'en ai jamais manifesté le désir. » Je suis heureuse et tranquille chez moi, je suis habituée à ma solitude. Mais il faut prendre quelques distractions. Tu n'es jamais allée au théâtre, cela t'intéressera beaucoup. Si cela peut te faire quelque plaisir, j'irai, mais tu sais que je n'aime pas être vue. Ne crains rien, non, j'ai loué pour toi seule une baignoire où tu seras parfaitement invisible. Il ne faut pas toutefois que cela t'empêche de faire un peu de toilette. » Louisa, la vérité, et dans les dispositions d'esprit que nous lui connaissons, avait nécessairement accueilli sans enthousiasme les ouvertures de Maxime. Elle n'était pas encore arrivée à cette période où le cœur cherche à s'étourdir, soit parce qu'il souffre, soit parce qu'il est vide. Cependant, elle était heureuse du changement momentané qui s'était opéré dans les manières de Maxime, et elle craignait, si elle résistait, de lui fournir un prétexte de reprendre sa taciturnité ordinaire. Elle se mit donc à sa toilette sans faire d'objection. On devait partir après le dîner pour le théâtre. Sa toilette ne fut pas longue. Elle ignorait la précieuse enfant les artifices en usage dans le monde de la galanterie et aussi dans l'autre. Elle n'en avait pas besoin. À 7 heures, Maxime la fit monter en voiture, la conduisit au théâtre, la plaça dans une baignoire au fond de la salle et la laissa quelques minutes avant le lever du rideau pour aller faire un tour à son cercle et prendre quelques dernières dispositions. Son projet était, après la représentation, de donner à 4 ou 5 de ses amis un souper que Louise présiderait. Il avait, dans ce but, retenu un salon dans un des restaurants du cours. Il allait au cercle rappeler l'invitation déjà faite à ses convives. Ajoutons que Louise ne devait pas être à ce souper la seule personne de son sexe. Maxime lui avait caché jusqu'à présent cette partie de ses projets. Il se réservait de la lui apprendre dans le courant de la soirée. Au moment où il sortait du théâtre, il se heurta légèrement sur la place des Arts contre un individu portant un costume d'ouvrier qui venait en sens contraire. Il regarda rapidement cet homme dont la figure ne lui était pas inconnue, mais qu'il avait vu sans doute dans des circonstances qui étaient sorties de sa mémoire. Cet homme n'était autre qu'Hector Bourdois, le fils du menuisier de la rue des Vignes. Comment se trouvait-il à pareille heure dans ce quartier de la ville? Hélas! Depuis le départ de Louise, Hector n'était plus l'ouvrier laborieux et rangé que nous avons connu au commencement de cette histoire. Ce n'était pas qu'il fût devenu débauché. Le pauvre garçon, tout entier à sa douleur, ne songeait pas à s'en distraire. Seulement, le séjour de la maison paternelle lui était intolérable. Là, tout lui parlait de Louise, tout lui rappelait à chaque instant la perte irréparable qu'il avait faite de ses espérances de bonheur. Il se mettait à son établi, mais bientôt l'outil lui tombait des mains. Et il sortait, il parcourait la ville, espérant retrouver la trace de Louise, l'entretenir un instant. Il regardait dans toutes les voitures et, quand au coin d'une rue, il apercevait une femme ayant la taille et la tournure de Louise, son cœur battait à tout rompre dans sa poitrine et il se sentait défaillir. Il avait ainsi éprouvé bien des déceptions et il commençait à croire que Louise n'habitait plus Rouen. Cette dernière pensée acheva de le décourager. C'était comme une nouvelle séparation, séparation définitive qui lui ravissait le dernier espoir qui lui conservait. Le jour dont nous parlons, il avait encore un autre motif de tristesse et il errait depuis le matin dans la ville sans oser rentrer à la maison de son père. Il s'arrêta sur la place des Arts après sa rencontre fortuite avec Maxime et regarda machinalement ce mouvement qui se fait toujours autour d'un théâtre au moment où la représentation va commencer. On faisait queue, on se pressait, on se poussait. Les sergents de ville faisaient ranger le monde. Il y avait évidemment une soirée intéressante. L'affiche annonçait une représentation du Trouvère pour le troisième début d'un ténor dont le talent était l'objet de vives controverses de la part des habitués. On s'attendait à une lutte très chaude entre ses partisans et ses adversaires. Déjà, aux représentations précédentes, des manifestations s'étaient produites dans les deux sens. Il y avait eu polémique dans les journaux. Tous ceux donc qui, à Rouen, s'occupaient de choses théâtrales, s'étaient donné rendez-vous ce soir-là dans la salle des arts. 7h30 approchait, la queue diminuait, les abonnés arrivaient tranquillement, les heureux mortels entraient tout droit, sans être assujettis à aucune formalité, comme la ville multitude. Hector s'apprêtait à s'en aller, quand il fut abordé par un individu d'assez mauvaise mine, au chapeau graisseux, à la redingote râpée, qui lui adressa familièrement la parole. « Eh, l'ami, lui dit-il, cela vous tente? Vous voudriez bien entrer. »« Entrer où ?» demanda Hector. « Au théâtre, parbleu !»« Oh non, ma foi, non, je vous jure !» Le fait est que jamais cette idée ne s'était présentée à l'esprit d'Hector. « Allons donc, reprit l'homme. Seulement je sais bien que la poche n'est pas toujours bien garnie. On connaît ça, mais il y a moyen de s'arranger. Si vous voulez nous donner un coup de main, je vous ferai entrer pour rien. » Hector, dans sa complète ignorance des choses théâtrales, ne comprenait pas un traître mot au langage de son interlocuteur. « Mais comment ça, répéta-t-il machinalement, vous donner un coup de main ?»« Eh oui, il faut que nous fassions réussir le débutant. Vous avez des mains solides, vous faites bien mon affaire. Est-ce dit ?» Hector n'était pas plus avancé qu'auparavant, mais comme cette histoire de ténor ne l'intéressait pas, il allait s'éloigner quand une idée lui traversa l'esprit. Il pensa qu'il n'était pas encore entré au théâtre et que peut-être il rencontrerait Louise. Il se décida sur le champ, répondit à l'homme qu'il acceptait sa proposition. L'homme au chapeau graisseux, que tous nos lecteurs auront reconnu pour un entrepreneur officiel ou officieux de succès dramatique, conduisit Hector au contrôle, dit deux mots à l'oreille du contrôleur qui le laissa passer. C'est ainsi que, pour la première fois depuis leur séparation, Hector et Louis se trouvaient, sans le savoir, rapprochés l'un de l'autre. Chapitre 8. Le troisième début. Louise n'était jamais entrée dans une salle de théâtre. Aussi son étonnement fut-il profond quand, restée seule dans sa baignoire, elle promena ses regards autour d'elle. Sa première impression fut pénible. Les conversations, les interpellations, les portes qui s'ouvraient, se fermaient, tous ces bruits qui se produisent dans une salle avant le lever du rideau, formaient une rumeur assourdissante qui, jointe à la chaleur et au manque d'air, lui causa tout d'abord un violent mal de tête. Devant elle s'étendait le parterre, rempli au-delà de toute expression, de spectateurs pressés qui s'agitaient, se plaignaient, se disputaient. C'était comme un océan de têtes, océan houleux, marée humaine. C'était comme un champ d'épis sur lequel passe un vent d'orage et qui s'abaisse et se redresse en ondulations prolongées. Il faut vraiment que le théâtre ait bien de l'attrait pour que beaucoup de gens se résignent, pour les plaisirs qu'il procure, à rester 4 heures debout, serrés les uns contre les autres, ballottés, étouffés dans un espace où l'air atteint son maximum de raréfaction. Une seule chose peut expliquer ce courage. Il faut payer pour jouir de ce sort fortuné qui fait rêver à celui des harengs empilés dans un baril. Si seulement on condamnait un garde national réfractaire, par exemple, non pas à 6 heures d'hôtel des haricots, mais à 4 heures de parterre debout, un soir de grande représentation, vous verriez le coupable plutôt que de subir ce châtiment, se jeter, à l'instar des bandits corses, dans les maquis du Bois Guillaume et de Canteleu, et entrer en lutte ouverte avec la société. Vous verriez qu'il préférerait l'air du ciel, l'eau des puits, un bon fusil bronzé par la fumée, et puis la liberté sur la montagne. Vous verriez enfin des pétitions se signer pour le rétablissement de la torture. Au-delà de cette zone oubliée par le Dante dans son enfer et dont la vue causait à Louise un involontaire effroi, se trouvaient les régions les plus sereines des stalles et de parquets. On y voyait, debout et le dos tourné à la Seine, des jeunes gens gantés de frais, promenant leurs jumelles indiscrètes sur les loges et faisant sortir, par un léger mouvement de bras, leurs manchettes ornées de volumineux boutons. Bien qu'à ces places, ces jeunes gens fussent en majorité, il s'y trouvait aussi des vieillards et des femmes. Toute cette partie de la salle, les stalles et le parquet, contenait alors ce qu'on était convenu d'appeler la partie éclairée du public, autrement dit les abonnés, les spectateurs influents, et dont l'opinion avait le plus de poids pour l'admission ou le refus des artistes. De là à la place où elle se trouvait, Louise ne voyait qu'une très petite portion des premières. Quant aux secondes, elles lui étaient complètement cachées. En dépit de la chaleur et de la gêne, il y avait sur tous les visages une expression non équivoque de satisfaction. On se frottait moralement les mains. Le caissier, un homme imbu des saines traditions, devait se les frotter, lui, physiquement. Cependant, Louisa avait peine à concilier ce contentement général avec les fragments de conversation qui arrivaient jusqu'à son oreille.
« Oh, ça va joliment chauffer !»«
Il y aura du tirage. Mais la direction veut le faire recevoir. On dit déjà qu'il y a beaucoup de claques. Oui, ben, nous sommes là. Vous avez votre instrument, je crois bien. Il a déjà vu le feu. » On dit que s'il y a trop d'opposition, on fera évacuer le parterre. Et les droits du public? Ben, il paraît qu'il a du talent. Allons donc, il est tombé à Carpentras. Et puis c'est un poseur. Ça, c'est vrai, je l'ai vu au café, il m'a déplu. Ces artistes, ça se croit au-dessus de tout le monde. Faut lui donner une leçon. Il verra ce que c'est que le parterre de Rouen. Mais nous avons sifflé Talma. C'est pas le plus beau de votre affaire. « Monsieur est pour le ténor. »« Je suis pour voir le spectacle. »« Il est de la claque. »« Dites tout de suite, je suis à Bouchard. »« Oh, c'est pas... »
Un incident vint interrompre cette conversation qui menaçait de s'envenimer et qui avait plongé Louise dans des perplexités sans fin. L'heure fixée pour le commencement du spectacle était passée depuis 2 minutes et des murmures de mécontentement se faisaient entendre. Bientôt, les pieds et les cannes s'unirent pour battre avec un ensemble formidable la mélopée des lampions que traversait par moments un coup de sifflet aigu, comme l'éclair traverse un ciel orageux. Un nuage de poussière monta jusqu'au lustre et en obscurcit la clarté. Cependant, le chef d'orchestre, cédant à cette pressante invitation, leva son archet et le silence se rétablit comme par enchantement. Le spectacle de la scène allait interrompre momentanément celui de la salle. Après l'introduction, la toile se leva. L'attention de Louise fut dès lors exclusivement absorbée par la musique et par les acteurs. Nous n'essaierons pas d'analyser les impressions multiples qu'elle subissait. Quand on songe à tout ce qu'il a fallu de siècles et de génie dans tous les genres pour produire ce résultat prodigieux de l'esprit humain, la représentation d'un opéra, quand on réfléchit au concours d'efforts, de talents qu'égit ce spectacle dont un pauvre diable peut jouir pour 15 sous, on est saisi d'un profond étonnement, on éprouve une admiration sans limite. Nous ne faisons pas ces réflexions, nous qui sommes habitués dès l'enfance à cet ensemble magnifique de chants, de musique, de lumière, de costumes, de décorations et de machines. D'où qu'il nous rendons compte de ces rouages sans nombre qui manœuvrent avec tant de facilité apparente. Mais quelle impression doivent-ils produire sur un esprit qui n'en a aucune notion jusqu'à présent et qui se trouve tout à coup admis à en contempler les merveilleux effets. Le premier tableau se passa sans encombre. Mais au second, à l'apparition de Manrique, les hostilités commencèrent. L'artiste qui le représentait était un grand gaillard de belle prestance qui se drapait élégamment dans son manteau rouge et remplissait bien la scène. Ses amis l'applaudirent vivement à son entrée en scène. Ses adversaires protestèrent par des sifflets contre les applaudissements. L'orchestre s'arrêta et, au grand étonnement de Louise, la représentation fut momentanément interrompue. Elle ne s'expliquait nullement la cause de ce tumulte, ne comprenant pas que des gens prissent plaisir à faire du tapage au lieu d'écouter tranquillement la représentation. Elle ignorait que pour la plupart des spectateurs, le tapage était le principal et la pièce l'accessoire. En effet, si l'exécution d'un opéra est une des merveilles les plus accomplies de notre civilisation et pouvant nous donner la plus haute idée du genre humain, les spectateurs sont là pour nous ramener souvent au sentiment de notre barbarie primitive, dont nous avons bien de la peine à secouer les chaînes. Cependant, les interpellations se croisaient dans la salle. Il est défendu de siffler avant la fin. N'applaudissez pas, nous ne sifflerons pas. À bas la cabale, à bas la claque. Et Louise vit bientôt tous les regards se tournait vers un individu qui se tenait debout à l'extrémité du balcon des premières et qui faisait de grands gestes pour imposer silence à la foule. C'était un vieillard et du haut de son balcon, il ressemblait un peu à un prédicateur qui, de la chair, étend les bras sur son auditoire. On disait dans la salle « Là, le commissaire de police veut parler. Mais laissez-le parler !» On n'interrompt pas comme cela une représentation. Mais nous avons payé pour entendre de la musique. Vous intimidez l'artiste. Mais comment voulez-vous le juger au milieu d'un pareil vacarme? Et des tricornes commençaient à poindre à l'horizon du parterre où l'effervescence était à son paroxysme. On se rappelle qu'un des personnages de notre histoire, Hector Bourdois, y avait été introduit sans trop savoir comment. Il était resté dans le fond, près de la porte, ne pouvant avancer davantage à cause de la foule, et il avait en vain essayé de regarder autour de lui. C'était à peine s'il entrevoyait par-dessus les têtes qui se trouvaient devant lui les frises de la scène. Il était là, complètement indifférent au tumulte, quand il se sentit frappé sur l'épaule. Il se retourna et reconnut le chapeau graisseux qu'il avait fait entrer. « Eh bien, camarade, lui dit l'homme à voix basse, vous n'êtes pas ici pour flâner, il faut jouer des mains. » Hector le regarda avec stupéfaction. « Est-ce que vous croyez que je vous ai fait entrer pour vos beaux yeux ? Et alors, que faut-il donc faire ? Applaudir, parbleu, applaudir. Quoi ? » Et en ce moment, quatre ou cinq sergents de ville pénétraient ou s'efforçaient de pénétrer dans le parterre. Mais la foule ne s'ouvrait pas, et pour ne pas s'en retourner les mains vides, ils empoignèrent les premiers qui se présentèrent. Hector fut du nombre. En vain, il protesta. Il fut conduit militairement à la porte où on le laissa. Cette exécution ramena un peu de calme dans l'assistance et le commissaire de police put parler. Il rappela le règlement qui interdisait toutes les marques d'approbation ou d'improbation pendant la représentation et menaça, si le bruit se renouvelait, de faire évacuer le parterre. Des applaudissements mêlés de quelques coups de sifflet accueillirent les paroles de l'agent de la force publique, et à la grande joie de Louise, la représentation put continuer. Les acteurs, qui faisaient fort triste mine en scène, pendant cet incident qui n'avait pas duré moins de 5 minutes, reprirent leur rôle à l'endroit où ils l'avaient laissé. Le premier acte s'acheva. Pendant l'entracte, Maxime vint voir Louise dans sa loge et lui dit « Oh, nous irons souper avant le spectacle, je viendrai te prendre. » Il ne crut pas nécessaire de dire que des convives étrangers seraient de ce souper. Louise ne fit pas d'objection et Maxime alla prendre sa place au stall à l'extrémité droite où se trouvaient plusieurs membres du cercle, entre autres Duplan et Renard. Ce coin était un foyer d'opposition assez vif. C'était la fine fleur du dilettantisme rouennais. Tout le monde est accessible à un certain ordre de beauté musicale. Il n'est personne qui ne soit ému par le miséréré du Trouvert, qui ne soit charmé par les exquises mélodies de la Dame Blanche. En dehors de cette impression générale que cause l'audition de la bonne musique, le simple et modeste amateur se déclare incompétent. Il lui suffit de prouver un plaisir, il ne cherche pas à l'analyser, il sent qu'il ne le pourrait pas. S'il a du bon sens, il ne se met aucun scrupule de reconnaître cette infériorité. Il n'en rougit pas plus de son ignorance en matière de cordonnerie, bien qu'il soit sensible au charme d'une chaussure bien faite. Il n'en est pas de même des prétendus dilettanti dont nous parlons. Ils n'ont aucune honte de ne pas savoir un métier quelconque qu'ils n'ont point appris. Mais ils se formaliseraient et se fâcheraient fort si vous leur disiez qu'ils ne sont point connaisseurs en musique, bien qu'ils ne l'aient point apprise. Ils ne peuvent donner d'autres preuves du savoir qu'ils n'affectent qu'une sévérité aussi absolue qu'inconséquente. Et ne se font pas faute d'en user. Le reste de la représentation se passa à peu près tranquillement. Il y eut bien des rires ironiques, des murmures désapprobateurs, mais comme les applaudissements se taisaient, les sifflets n'avaient aucune raison de se faire entendre. Ils gardaient tous leurs moyens pour la fin. Louise put donc écouter, sans être troublée, la magnifique partition de Verdi. C'était une première initiation assez difficile à supporter. Aussi n'assurons-nous pas que son plaisir fut complet. Elle était transportée dans un monde si nouveau. Ses sensations étaient si singulières que, par moments, elle éprouvait comme un vertige et perdait la notion exacte de son existence. Tout ce monde étrange qui s'agitait sur la scène, ces chevaliers aux brillantes armures, ces femmes traînant leurs jupes brochées d'or, ces palais, ces jardins, ces rochers, ces chants d'amour et de haine, cet orchestre gémissant comme des sanglots, éclatant comme des fanfares, tout cela lui semblait être une vision qui allait s'effacer et disparaître. Elle était haletante, oppressée, comme l'homme endormi qui s'agite sous le poids d'un cauchemar, jusqu'à ce qu'une main amie vienne le réveiller. Quand le rideau se fut baissé sur la dernière imprécation de la bohémienne, Louise pensa que la pièce était finie. Cependant, personne ne faisait mine de partir. C'est qu'au contraire, la pièce, la véritable pièce, celle qui amène toute cette foule, allait seulement commencer. Le rideau se leva de nouveau et Louise vit apparaître un monsieur en habit noir et cravate blanche qui prononça quelques paroles qu'elle n'entendit pas. Alors se déchaîna une tempête effroyable auprès de laquelle la première n'était qu'une brise printanière. Louise crut sa dernière heure arrivée. Elle crut que le théâtre allait s'écrouler. Le bruit était vraiment insoutenable. Sifflets et applaudissements se maintenaient avec une égale énergie, C'était de la rage, de la frénésie, du délire. Il y avait dans ces sifflets, pour une oreille exercée, des variations incroyables de tonalité. Les uns étaient aigus et perçants, c'étaient les ténors. Les autres avaient un son plus grave et plus étendu, c'étaient les basses. D'autres procédaient par vibrations intermittentes, ils chevrotaient. D'autres, enfin, étaient accompagnés d'une sorte de roulement et lançaient les notes par cascade. Il y avait des modulations insensées, des airs qui ne sont jamais notés. C'était une symphonie atroce, comme celle que seront condamnés à entendre en enfer les musiciens et les chanteurs qui, dans ce monde, ont vécu en mauvaise intelligence avec la mesure. Ceux qui applaudissaient commençaient à se fatiguer d'une lutte évidemment inégale. Ils suppléaient à leurs mains défaillantes par des cannes et par des pieds. Il y avait des moments où les deux parties, épuisées, concluaient une trêve tacite. Il se faisait un silence relatif, pendant lequel un spectateur des secondes imitait avec succès le cri de différents animaux de basse-cour. C'était un soliste. Puis un applaudissement isolé se faisait entendre. Alors les sifflets recommençaient avec fureur, les applaudissements reprenaient avec une vigueur égale. On ne pouvait prévoir le terme de la lutte. Il y avait au parquet deux jeunes gens qui, depuis la fin de la pièce, n'avaient cessé l'un d'applaudir, l'autre de siffler. « Je n'en peux plus, les bras me manquent, » dit le premier à son voisin. « Oh, moi, je suis un boudadène. Eh bien, faisons un échange. Je vais siffler et tu applaudiras. Le résultat sera le même. » Et cet arrangement original fut adopté. Cependant, Louise, dans sa loge étroite et basse, souffrait horriblement du bruit, de la chaleur et de la poussière. Elle avait la tête en feu. Elle attendait avec impatience que Maxime vînt la chercher. Maxime, quant à lui, était au plus fort de la mêlée et se faisait remarquer parmi les adversaires les plus acharnés de l'artiste. Enfin, après une demi-heure de cette scène atroce, le commissaire de police profita d'un moment d'épuisement général pour annoncer que l'artiste était admis. Des protestations se firent entendre. On appela le régisseur. Bref, il fallut éteindre les lumières pour que le public se décidât à quitter la place. Pendant une demi-heure environ, encore, les environs du théâtre furent agités. Des coups de sifflet prolongés retentirent dans la rue Grand-Pont, comme ces fusées oubliées qui partent après le bouquet d'un feu d'artifice. Il y eut des conciliabules animés sur le cours Boieldieu, et les cafés des environs virent s'accroître d'une manière inusitée la consommation des chopes impuissant de rafraîchir tant de gosiers altérés. Ce soir-là, chacun des spectateurs put se coucher en se disant, comme feu Titus, « Oh, je n'ai pas perdu ma journée !» Chapitre 9. Le souper. Hector n'avait pas compris pourquoi on l'avait fait entrer au théâtre. Il n'avait pas compris davantage pourquoi on l'en avait fait sortir. Quand les sergents de ville l'eurent délicatement déposé sur le trottoir de la place des Arts, il se mit à réfléchir. En entrant dans la salle, il avait été guidé par l'espoir d'y rencontrer Louise. Il résolut donc d'attendre la fin du spectacle, pensant que si elle s'y trouvait, il la verrait sortir et pourrait l'aborder plus facilement. Mais au milieu de la cohue qui se pressait à la porte au moment de la sortie, il ne vit point celle qu'il cherchait. Il se demanda alors s'il devait retourner rue des Vignes, et tout en se consultant, il s'assit sur un des bancs du cours Boieldieu. La nuit était magnifique et la lune dans son plein brillait au haut du ciel. Les eaux du fleuve scintillaient sous ses rayons, auprès desquels la lumière des becs de gaz paraissait rougeâtre. Les mâts des navires amarrés dans le port se profilaient vivement sur le ciel. Les moindres objets projetaient des ombres fortement accentuées. Il ne faisait pas un souffle de vent et l'on n'entendait guère que les pas du douanier qui, enveloppé dans son manteau, se promenait lentement au milieu des marchandises amoncelées sur le quai. Par moments, le vent d'est apportait une rumeur sourde et prolongée. C'était un convoi qui passait sur le pont du chemin de fer. Hector était toujours sur son banc quand son attention fut attirée par le bruit d'une fenêtre qui s'ouvrait au premier étage d'une maison en face. Il leva les yeux et vit une femme qui sortait de l'appartement et s'accoudait à la rampe du balcon. La lune éclairait son visage et permettait de distinguer ses traits comme en plein jour. Hector se leva soudainement. « Louise !» s'écria-t-il. Mais en même temps, un jeune homme paraissait sur le balcon. Et Hector l'entendit qui disait à Louise « Je crois, mademoiselle, que vous feriez bien de rentrer. L'air est très frais. Oh, mais je suis mal à la tête. C'est égal, il faut prendre garde au refroidissement. » Pendant ce colloque, Hector, muet de stupeur, s'était avancé jusqu'au pied du balcon. Louise, avant de se retirer, le remarqua et dit au jeune homme « Jetez donc quelque monnaie à ce pauvre homme qui ne sait peut-être pas où passer la nuit. » Hector entendit une pièce d'argent qui tombait à côté de lui. Puis la fenêtre se referma. Revenu de l'étonnement où cette brusque apparition l'avait plongé, il regarda la maison devant laquelle il se trouvait. Il vit une enseigne de restaurant. Il ignorait comment Louise avait été amenée dans ce lieu, et il éprouva, pour la première fois, un mouvement de colère et d'indignation. Son cœur, jusqu'alors résigné, se souleva en songeant que tandis qu'on souffrait là-bas, elle passait des nuits folles et insoucieuses, trouvant les journées trop courtes pour le plaisir. Et pourtant, s'il avait pu lire dans le fond de cette âme blessée, il eût éprouvé pour elle non pas de la colère, mais de la pitié. À un moment, l'idée lui vint d'entrer de gré ou de force dans la maison, de pénétrer jusqu'à elle, de lui reprocher son oubli, et d'opposer à l'image des plaisirs qui l'entouraient celle du grabat solitaire où s'éteignait le père Mathurin. Mais les portes étaient bien closes, et toute tentative de sa part n'aurait eu probablement d'autre résultat que de le mettre une seconde fois aux mains des agents de police. Quels sont en effet souvent les vulgaires obstacles que notre société civilisée oppose à l'éclat fougueux des passions, tels qui se seraient illustrés par un crime fameux, et conduit tout simplement au violon, comme le dernier des tapageurs nocturnes. Hector renonça donc à ce parti extrême, et remarquant une voiture qui était arrêtée près du trottoir, il s'en approcha et entra en conversation avec le cocher. Ce dernier, très heureux de trouver avec qui causer, ne fit aucune difficulté d'apprendre à Hector qu'il avait amené une jeune dame et un jeune homme au théâtre, que du théâtre il les avait conduits à ce restaurant et qu'il devait les ramener chez eux après le souper. Satisfait de cette explication et désormais certain de pouvoir parler à Louise, Hector regagna son banc et attendit. L'horloge de la bourse venait de sonner 1 heure du matin. Quelques instants après minuit, les convives de Maxime étaient réunis dans un salon du restaurant en vogue à cette époque, du Véry rouennais. Ses convives se composaient de 4 jeunes gens, membres influents du cercle des moutards. Duplan et Renard étaient du nombre. deux des plus fringantes demoiselles, qui tenaient alors le haut du pavé de la galanterie, représentaient la partie féminine. Ces dames, qui affichaient un certain luxe, n'avaient cependant ruiné aucun de leurs amants. Les jeunes industriels et négociants rouennais ne se ruinent pas pour leur maîtresse. Toutefois, suppléant à la qualité par le nombre, à l'opulence par l'ordre et l'économie, elles trouvaient moyen de faire une certaine figure et de scandaliser les gens vertueux par l'ampleur de leur volant. Elles étaient de celles qui, dans la journée, sur le cours et le soir au théâtre, étalent leurs toilettes plus ou moins fastueuses et que l'on rencontre quelquefois le matin en camisole d'une blancheur douteuse, allant chercher 2 sous de lait pour leur déjeuner. À 1:15, Maxime entra, donnant le bras à Louise. Les hommes firent un geste d'admiration, les femmes se mordirent les lèvres de dépit. Le fait est que Louise était charmante. Sa toilette lui allait à ravir. C'était une robe de soie gris clair, unie et sans aucun ornement, qui dessinait à merveille sa taille ronde et mince. La soirée tumultueuse à laquelle elle venait d'assister avait légèrement coloré ses joues et donné de l'animation à son visage. Elle parut surprise de voir en entrant une si nombreuse compagnie et adressa à Maxime, qui ne l'avait pas prévenu, un regard de reproche. Celui-ci, avec un sérieux ironique, lui présenta ses invités. Et cette formalité remplie, l'on se mit à table. Il y eut un peu d'embarras en commençant et la conversation fut languissante. Louise souffrait d'une migraine violente. Elle se leva et alla un moment prendre l'air sur le balcon. Elle y fut rejointe par Renard qui, depuis son arrivée, l'avait observée avec beaucoup d'intérêt. La conversation, commencée sur le balcon, se continua à table entre Louise et Renard, qui étaient placés l'un à côté de l'autre. Maxime lui avait lui-même provoqué. « Si tu souffres, avait-il dit à Louise, adresse-toi à ton voisin. C'est un médecin, et bien que je n'ai pas la moindre confiance en lui, tu peux le consulter pour la forme. » Sans relever cette plaisanterie, Renard avait interrogé Louise, qui, à part son indisposition momentanée, éprouvait depuis quelque temps un malaise persistant et général. Elle était sans appétit et sans sommeil, elle s'affaiblissait beaucoup, elle toussait fréquemment. Renard était médecin, mais surtout psychologiste. Il vit de suite que la cause de ce malaise était toute morale. Le moment n'était pas opportun pour commencer une cure semblable. Il donna quelques conseils et engagea Louise, si plus tard son état ne s'améliorait pas, à l'en faire prévenir par Maxime afin qu'il allât la voir. Cependant, les autres convives, après avoir fait main basse sur les plats de résistance, se sentirent plus en humeur de causer. D'ailleurs, le champagne, qui délie les langues, avait commencé à circuler. « Eh bien, » dit Maxime en s'adressant à l'une de ses invitées, « es-tu enfin consolée du mariage de Léon ?»« L'homme que vous aimiez se marie ?» fit Louise. « Oh, madame, je vous plains !» Cette réplique inattendue fit rire tout le monde, excepté Renard. « Vous avez tort de la plaindre, » dit-il à Louise. Vous êtes ici dans un monde dont vous n'avez aucune idée et où les sentiments que vous éprouvez ne trouveront aucun écho. Il y eut, comme disent les comptes rendus parlementaires, de vives dénégations sur plusieurs bancs. Mais pourquoi vous récriez, reprit Renard. Vous savez tout aussi bien que moi ce qui arrive quand le mariage enlève un amant à l'une de ces dames. C'est un événement très heureux. On se referme chez soi pendant quelques jours, on prend un air de circonstance, puis on se montre un peu dans une toilette modeste. on a une allure lente et mélancolique. On appelle des consolateurs. Oh, ils s'en présentent, gardez-vous d'en douter. Oh, je ne parle ici que des habiles, de celles qui savent profiter de ce prétendu veuvage pour mieux achalander leur petit commerce. Quant aux autres qui ont pris soin par avance de parer aux conséquences de cette éventualité, je ne m'en occuperai pas. Elles ne sont pas moins méprisables, elles sont moins adroites seulement. Elles ne soupçonnent pas ce que 8 jours seulement d'hypocrisie peuvent leur apporter. Ah, voilà lancé, dit Maxime. Mon cher, si j'avais le malheur de vous avoir pour amant, Dieu vous en préserve, et moi aussi. Vous êtes méchant, monsieur, dit Louise à son voisin. Non pas, seulement il est bon que vous sachiez à quoi vous en tenir, sur un monde qu'il eût été plus sage de ne pas vous laisser entrevoir. Ah, trêve de morale! Oh, c'est vrai, il est ennuyeux, oh, on ne peut jamais s'amuser quand M. Jules est là. Mais malheureux que vous êtes, reprit Renard. Vous abuseriez-vous au point de croire que vous vous abusez jamais? Si, vraiment. Laissez-le parler. Oh, je demande qu'on le rappelle à l'ordre. Renard cherchait vainement à dominer le bruit que l'on faisait pour l'empêcher de parler. Il ne se rendait pas bien compte du sentiment qui donnait de l'amertume à sa parole, qui le provoquait aux récriminations et à la satire. Assurément, la présence de Louise y était pour beaucoup. Il avait pressenti en elle une femme d'un tout autre ordre que les créatures auxquelles elle avait été involontairement réunie. Et ce rapprochement révoltait son esprit droit et sympathique pour les natures aimantes et par conséquent souffrantes. « Quoi ? » reprit-il enfin. « Parce que vous aurez bu quelques verres de champagne, cassé des assiettes, chanté des refrains grivois, vous rentrerez chez vous en vous disant que vous vous êtes abusé, allons donc. Si la vieille gaieté française n'avait que pour vous pour la sauver, elle serait morte depuis longtemps. » La gaieté est la compagne de la jeunesse, et vous tous, vous pouvez vous demander, comme Robert Macaire, est-ce que j'ai eu une jeunesse? Assez, assez! Oh, c'est trop fort, il faut le museler! Où sont les folies que vous avez faites? Où sont les pleurs que vous avez versées? Cependant, Duplan s'était furtivement levé de table, et avait ouvert un piano placé dans l'angle du salon. Il interrompit la tirade de Renard en jouant la fameuse ronde des louis d'or. « Bravo, bravo » s'écria-t-on de toutes parts. Moitié riant, moitié grondeur, Renard se leva de table, et les autres convives l'imitèrent. On apporta des tables de jeu et des cartes. « Mon ami, dit Louise à Maxime, « est-ce que tu vas jouer ?»« Certainement. »« Oh, c'est que je souffre beaucoup de ma migraine et que je serais bien aise de rentrer. »« Bon, donne-moi seulement une petite demi-heure et... » Il alla s'installer à une table d'écartée. « Oh, si vous vous mettez à jouer, je vais me coucher, » dit Renard. « Et si je vous priais de rester ?» lui dit Louise. « Mais, mademoiselle... » Ne voyez-vous pas que je suis la seule, que le jeu n'intéresse pas, et ne voulez-vous pas me tenir compagnie? Mais je reste bien volontiers. Ils s'assirent tous deux à quelque distance des joueurs et se mirent à causer. Louise écoutait plus qu'elle ne parlait. Renard avait beaucoup vu et beaucoup réfléchi. Il savait revêtir ses observations d'une forme originale et humoristique qui donnait beaucoup d'attrait à sa conversation. Et puis il savait se faire comprendre. Il ne dédaignait pas de descendre au niveau de l'intelligence naïve et surprise qu'il entendait. La science des hommes et des choses qu'il avait acquises, il la rendait accessible et attrayante par un langage simple, familier, que Louise, jusqu'à présent, n'avait jamais entendue. Quant à elle, de quoi pouvait-elle parler, si ce n'est d'elle-même, de sa pauvre âme malade et froissée? Elle souffrait depuis longtemps, et pour la première fois, elle rencontrait un cœur loyal et généreux qui inspirait confiance et sympathie. Et sans le vouloir ou sans presque y songer, elle raconta sa courte et douloureuse histoire. Cette conversation intime n'était interrompue que par les exclamations des joueurs. « Le jeu est fait. J'en demande. Impossible. À nous le point. Non, non, bon, non, non, j'ai la fourchette. La main est de votre côté. Nous ne passons que 5 fois. Oh, je me rappelle, il y a 3 ans, à une soirée de Monsieur Potard. Oh, votre place, je jouerai à droite. Mais jamais, il faut attaquer de la couleur double. » Il était 5 heures du matin et le jour entrait brutalement par les croisées, éclairant ses joues pâlies, ses yeux fatigués, ses visages ternes et hébétés, par lesquels la nature se venge du vol que nous faisons à ses droits en consacrant au plaisir les heures qu'elle a destinées au sommeil. On descendit sur le cours. Le cocher dormait sur son siège, et sur un banc à côté était assis, adossé contre un arbre, un homme qui semblait aussi endormi. Cependant, il se leva en voyant sortir les convives et alla à la portière qu'il ouvrit. Louise, sans le regarder, monta sur le marchepied. À ce moment, elle se sentit arrêtée par le bras et retourna la tête avec un mouvement d'effroi. « Hector !» s'écria-t-elle. « Mademoiselle, répondit ce dernier à voix basse, votre père se meurt, et peut-être arriverez-vous trop tard pour recevoir son dernier soupir. »« mon père se meurt? Oh non, c'est impossible. Il est peut-être mort. Oh, vite, allons, monsieur Renard, vous êtes médecin, venez avec moi, vous le sauverez. »
Maxime, qui était en train d'éveiller le cocher, s'était approché du groupe en entendant le cri de Louise. « Bon, je vais rentrer à pied. Renard se charge de te ramener, dit-il. « Oui, oui, je m'en charge, dit Renard.
« Viens, Hector, viens avec nous, reprit Louise. »
Hector monta et prit place à côté de Louise et de Renard. La voiture se dirigea par le pont suspendu vers la rue des Vignes.
« C'est bien heureux que Renard se soit trouvé là, » pensait Maxime en s'en allant. « Il m'évite une fameuse corvée. Il va y avoir une scène de famille fort peu réjouissante. »
Il alluma un cigare et disparut dans la rue Grand-Pont. Chapitre 10. Dénouement prévu. Depuis 2 ou 3 jours, le père Mathurin était entre la vie et la mort. Il avait été amené à cet état, doucement et sans secousse, par un affaiblissement graduel dont nos lecteurs connaissent la cause. Quand il eut appris le départ de sa fille, il prit en dégoût la vie et le travail. Il passait ses journées dans la chambre de Louise. Il fallait que le père Bourdois vînt l'y chercher et l'entraîna pour lui faire prendre quelque nourriture. Parfois, cédant aux exhortations de son ami, il retournait à son bateau, à l'autre Louise, qui l'attendait, tristement échouée sur le pavé. Il la mettait à flot et reprenait ses avirons. Mais les moments d'énergie étaient courts. Il revenait toujours à la petite chambre de la rue des Vignes, ayant le vague espoir d'y retrouver sa fille assise et cousant comme de coutume près de la fenêtre. Peu à peu, ses forces s'affaiblirent, et le père Bourdois le décida à se mettre au lit. Cependant, il ne souffrait pas. Pendant la soirée dont nous venons de raconter quelques incidents, l'affaissement physique et moral avait pris un caractère plus alarmant.
Le pouls était devenu presque insensible. Le père Bourdois, après avoir fermé sa boutique, était monté près de lui et s'était installé sur une chaise, comptant passer la nuit auprès du malade. Celui-ci, pour qui la parole semblait être une fatigue, lui avait fait un signe de la main pour le remercier et était retombé dans son assoupissement. Et le père Bourdois, vers 4 heures du matin, s'était endormi sur sa chaise. Pendant le court trajet qu'elle fit dans la voiture avec ses deux compagnons, Louise avait gardé le silence. Ses yeux étaient secs, elle regardait fixement par la portière, sans rien voir. La fièvre battait ses tempes, et parfois elle prenait sa tête entre ses mains, comme pour retenir sa raison, qui était sur le point de lui échapper. Quand la voiture fut arrivée, elle en descendit la première, monta rapidement l'escalier et ouvrit doucement la porte de la chambre de son père. Elle courut au lit du vieillard et, s'agenouillant, lui saisit la main qui pendait hors de la couche. « C'est moi !» murmura-t-elle. « C'est moi, ta Louise, ta fille !» Le père Mathurin fit un mouvement. Ses lèvres s'agitèrent. Renard et Hector, qui venaient d'entrer, le soulevèrent doucement. Il ouvrit les yeux et ses mains tremblantes cherchèrent la tête de son enfant. « Oh, c'est toi, Louise. Oh, je savais bien que tu reviendrais. Je suis bien heureux de t'avoir vu avant de mourir. Vous ne mourrez pas, mon père, nous vous sauverons. N'est-ce pas, monsieur, que vous le sauverez ?» Renard avait malheureusement vu du premier coup d'œil que le vieillard n'avait plus que quelques instants à vivre. « C'est égal, » continua le père Mathurin. « Ça m'a fait bien du mal quand tu m'as quitté. Je faisais tout ce que je pouvais pour te rendre heureuse. Et puis j'avais l'habitude de te voir, et tu sais, chez les vieux, c'est dur à déraciner les habitudes. » Louise sanglotait. Les trois hommes, le cœur gros et l'œil humide, contemplaient cette scène déchirante. « Ben, si j'ai souffert, ça sera bientôt fini. Et puisque je te laisse heureuse, car tu es heureuse, n'est-ce pas ?»« Heureuse !» s'écria Louise. « Bon, laissez-lui cette dernière consolation, » dit Renard à voix basse. « Eh bien, je m'en irai content et remerciant Dieu. » « Oh non, si Dieu est juste, vous ne mourrez pas. Ce n'est pas vous, mon père, qui êtes le coupable. » « Mais à quoi bon, » dit Renard, attristé encore ces derniers moments. « Mais il n'y a donc plus d'espoir ?» s'écria-t-elle en se levant. « C'est horrible. C'est moi qui le tue et sa dernière parole est une bénédiction pour moi. « Mon père, » reprit-elle en s'agenouillant de nouveau, « mon père, je vous en supplie, vivez, je ne vous quitterai plus, j'emploierai ma vie à me faire pardonner ma faute. Est-ce que vous ne m'entendez pas, mon père ?» Le vieillard fit un geste, essaya de prononcer une parole, mais sa tête retomba inerte sur l'oreiller. Il venait d'expirer. Louise était tombée sans connaissance au pied du lit. Renard et Hector la prirent entre leurs bras et la placèrent dans la voiture qui la ramena à la maison du boulevard. Un mois après cet événement, Renard recevait une lettre de Louise. Elle y fait assez clairement allusion aux faits qui s'étaient passés dans l'intervalle pour que nous dispensions de les raconter. Elle fait aussi prévoir le triste dénouement auquel nous avons hâte d'arriver. C'est presque un testament. Voici cette lettre. « Mon cher ami, bien que vous m'ayez rendu un triste service en me rappelant à la vie, Mon cœur est plein de reconnaissance pour les soins que vous m'avez prodigués pendant 15 jours, avec un dévouement si complet et si absolu. Depuis 8 jours que je ne vous ai vu, je suis resté toujours seul. J'ai beaucoup réfléchi, et je me crois assez forte pour mettre à exécution un projet que j'ai conçu pendant ma maladie. J'ai pris la résolution de quitter cette maison et de reprendre, dans celle de mon père, ma vie laborieuse d'autrefois. J'espère que Dieu ne voudra pas que ce soit pour longtemps. Bien que cela soit sans doute fort indifférent à M. Maxime, je vous prie toutefois de l'en informer. Il ne sera pas nécessaire que vous preniez beaucoup de ménagements. Il y a si longtemps, vous le savez, qu'il ne m'aime plus. Moi-même, je trouve en m'interrogeant que je n'ai plus d'amour pour lui. Il ne reste dans mon cœur, trop cruellement éprouvé, qu'un espoir, celui de la mort. Et je le sens bien, il ne tardera pas à se réaliser. J'ai bien peu vécu, cependant. Je n'ai pas encore 19 ans. Mais il me semble que de longues années séparent la Louise d'aujourd'hui de celle qui, il y a 5 mois à peine, vivait heureuse et ignorante auprès de son père. J'espère que Dieu me comptera mes jours de souffrance pour des années de vie, et qu'il trouvera que je suis assez vieille pour qu'il soit temps de me rappeler à lui. Bien souvent, j'ai eu envie de hâter ce moment tant désiré. Mais j'ai résisté à la tentation, car il faut que j'expie ma faute. Il faut que j'expie la mort de mon père, que mon abandon a tué. Vous voyez, mon ami, je vous dis tout. Je vous découvre l'état de mon cœur. Cela me fait du bien. Je voudrais me rendre digne de votre estime et j'espère que vous approuverez ma résolution. Dites donc à M. Maxime qu'il peut reprendre possession de sa maison. Dites-lui aussi que je ne lui en veux pas. Peut-être a-t-il cru m'aimer. Je n'ai pas besoin de l'engager à ne point chercher à me revoir. L'idée ne lui en viendra pas. Quant à vous, mon ami, oubliez aussi votre pauvre malade. Ne la revoyez plus. Vous seriez seul capable de la rattacher à l'existence. Et je ne veux pas vivre. Si j'ai besoin de vous, je vous écrirai. Adieu, mon ami, et soyez heureux comme vous méritez de l'être. C'est mon dernier vœu. Louise. Le soir, Renard rencontra Maxime au cercle. Ah, j'ai reçu des nouvelles de Louise, lui dit-il. Ah, tiens, c'est vrai, oui. Eh bien, comment va-t-elle? Elle retourne rue des Vignes. Définitivement? Oui, tout ce qu'il y a de plus définitivement. Bon, c'est ce qu'elle avait de mieux à faire. Mais c'est tout ce que tu as à dire? Mais que veux-tu donc que je te dise? Tu ne seras pas malheureux, toi? Comment ça? Ben, c'est pas le cœur qui t'étouffe. Bon, je n'y peux rien, en somme. Elle veut retourner chez elle, qu'elle y retourne. Je ne veux pas lui faire violence pour la garder. D'ailleurs, si elle a besoin de quelque chose, je suis là. Vrai? Parole d'honneur. Mais rien ne t'oblige cependant à t'occuper d'elle maintenant. Non, rien, absolument. Une maîtresse, ça se perd, ça se quitte et tout est dit. Certainement, mais la délicatesse. Oh, la délicatesse, allons donc. Où en serait-on s'il fallait prévoir tant de choses? On n'y suffirait pas. Mais comme notre liaison s'est faite dans des circonstances particulières, je lui refuserai jamais quelques petits secours dont elle pourrait avoir besoin. Allez, toucha, tu peux te vanter d'être joliment réussi, toi. Ils se séparèrent là-dessus. Maxime, enchanté d'être débarrassé de Louise, Renard, très incertain de ce qu'il devait faire. Les derniers mots de la lettre de Louise lui laissaient entendre qu'il aurait peut-être sur elle assez d'empire pour la rattacher à la vie. Mais la jeune fille dut-elle l'aimer un jour? Il n'avait pas, lui, le droit de l'aimer. un engagement que sa loyauté ne lui permettait pas de rompre s'y opposait. Il résolut donc d'obéir à la lettre de Louise et d'attendre pour la voir qu'elle le demanda. Il espérait d'ailleurs que la résolution qu'elle venait de prendre aurait de bons résultats pour sa santé, que le repos se ferait dans son âme, et que, ramenée par cette cruelle épreuve au sens plus exact de la vie réelle, elle deviendrait la compagne, sinon heureuse, du moins tranquille, du brave Hector. Le lendemain matin, le père Bourdois travaillait devant sa porte. Hector était dans l'intérieur de sa boutique. Le vieux menuisier, en levant les yeux et en regardant dans la direction du quai, aperçut une jeune femme qui venait à lui. « Serait-il possible ? » se dit-il. « Mais je me trompe pas ! Hector, Hector !» Hector se hâta d'arriver. « Mais regarde donc, c'est Louise !» lui dit son père. « Oh oui, c'est bien elle, oh quel bonheur ! Elle revient à nous. Tu seras bon pour elle, n'est-ce pas, mon père ?»« Sois tranquille. Si elle revient, c'est qu'elle est malheureuse et qu'elle se repent. Je tâcherai de remplacer le père qu'elle a perdu. »« Oh merci, mon père !» Et Hector serra énergiquement les mains du vieillard. C'était bien Louise, en effet, qui s'avançait lentement et péniblement dans la rue des Vignes. Elle était très pâle et avait la modeste robe d'indienne qu'elle portait au moment de son départ. Elle arriva devant la boutique, y entra et se laissa tomber sur une chaise que lui avança Hector. La course qu'elle venait de faire l'avait accablée. « Me voici, monsieur Bourdois. Voulez-vous encore me recevoir chez vous ?» « Nous t'attendions tous les jours, mon cher enfant. Tu retrouveras ta chambre telle que tu l'as laissée. »« Oh, merci, vous êtes bon. Et vous, Hector, me pardonnez-vous la peine que je vous ai causée ?»« Je suis trop heureux de vous revoir, Louise, pour ne pas oublier les chagrins passés. »« Merci. » Et elle lui tendit la main qu'il serra avec effusion. Cette scène, simple et touchante, avait sa grandeur. Le père Bourdois était un vrai chrétien et il mettait en pratique la parabole de l'enfant prodigue. Ce fut là, du reste, la seule allusion qui fut faite au passé. Louise reprit son ancienne vie et se remit courageusement au travail. Seulement, sa santé, qui s'était beaucoup affaiblie et ne se rétablissait pas, ses joues pâlies ne pouvaient trouver leur premier incarnat, et sa jolie tête, autrefois riante et insoucieuse, se courbait souvent sous le poids de la pensée. Elle était frappée au cœur, elle était frappée mortellement. Le père Bourdois et son fils l'entouraient de soins et d'affection. Elle ne cessait de les remercier, mais ses regards mélancoliques portait le découragement dans l'âme du pauvre Hector, qui la voyait dépérir de jour en jour. Plusieurs fois, elle avait été tentée d'écrire à Renard, mais elle avait eu le courage de résister à ce désir. Les premiers froids de novembre portèrent un dernier coup à sa constitution affaiblie. Le travail lui devint impossible. Elle dut s'aliter. Sentant bien que sa fin était proche, elle traça d'une main tremblante quelques lignes qu'Hector alla porter à Renard. Celui-ci arriva aussitôt avec le messager. « Mon ami, lui dit-elle, je vous ai prié de venir parce que maintenant je peux vous voir sans danger. Rien ne peut plus m'empêcher de mourir. » Si mon repentir et mes souffrances ont paru à Dieu une expiation suffisante, j'irai rejoindre mon pauvre père. Non, vous vous trompez, Louise, tout espoir n'est pas perdu. Oh, je le sens bien. Dans quelques jours, dans quelques heures peut-être, tout sera fini. Elle disait vrai. Elle languit encore 3 jours, puis expira en bénissant ses trois amis. Le lendemain, au moment où le modeste convoi, suivi du père Bourdois, d'Hector et de Renard, allait quitter la maison, Maxime entrait dans la rue, suivi d'un commissionnaire et d'une charrette. Il venait enlever ses meubles du pavillon. Il se croisa avec le convoi et reconnut Renard. « Tiens, te voilà, » dit-il. « Oui, et tu ne devines pas qui nous enterrons ?»«
Ben non.
Serait-ce Louise ?»«
C'est elle. »
« Allez, tu viens pas avec nous jusqu'à l'église ?»«
Bon, je suis désolé, mon cher, mais je suis horriblement pressé et je ne peux... »«
Bah, mon cher, les affaires avant tout, c'est trop juste. » Et le convoi poursuivit sa marche. « Monsieur Maxime Perrier est aujourd'hui marié et père de famille. C'est un de ces industriels dont s'enorgueillit la Normandie. » Et son nom retentit dans les journaux à chacune de nos expositions. Comme homme privé, il est sociable, bienveillant et meilleur que d'autres. Une seule chose retrouble sa vie. Il se plaint d'une maladie de cœur. Son ami Renard dit que c'est de la fatuité.